بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui le dimanche, le 24 du mois Shawwal de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 12 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer cette lecture de Risala de l'imam Ibn al-Qayyim qu'il a adressée à un de ses frères. Nous avons parlé des quatre points qui permettent aux serviteurs d'accéder au rang de l'imam et d'être un guide dans la religion, qui sont tout d'abord la patience, as-sabr, ensuite l'yaqin, la certitude, qui nécessite la science, et troisièmement, d'appeler les gens, et quatrièmement, de les appeler selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Donc, il n'est pas question de faire da'wah comme on veut, mais faire da'wah comme Allah a ordonné, comme Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est comme son prophète alayhi salatu wasalam a fait. Donc da'wah de tablir, c'est pas une da'wah comme Allah veut. Da'wah de l'ikhwan, c'est pas comme une da'wah comme Allah veut. Et da'wah de soufia, c'est pas non plus une da'wah comme Allah veut. Et le khawarij également. Da'wah comme Allah veut, c'est la da'wah salafiyya, d'appeler les gens au suivi du livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wasalam, et de les comprendre comme ils étaient compris par les compagnons et de les mettre en pratique. Hadiyat da'wah, et de le faire avec sagesse et avec science et clairvoyance. Après cela, l'imam Ibn al-Qayyim a fait un sous-chapitre dans lequel il a dit: وَمِمَّا يَنْبَغِي الْاِعْتِنَاءُ بِهِ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَقَصْدًا وَإِرَادَةً الْعِلْمُ بِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ بَلْ كُلُّ حَيَوَانٍ إِنَّمَا يَسْعَى فِي مَا يُحَصِّلُ لَهُ اللَّذَّةَ وَالنَّعِيمَ وَطِيبَ الْعَيْشِ. Donc parmi les choses dont on a tous besoin d'accorder une attention particulière et un grand intérêt, que ce soit dans la science et le savoir et l'intention, et au niveau de l'intention, c'est de savoir que tout homme, même tout animal, même les animaux, cette règle elle est valable même pour les animaux. Les plus à même de connaître cette règle, ce sont bien évidemment les hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a distingués avec la raison, avec l'aql. Tout homme, et même tout animal, cherche ce qui lui procure le plaisir et le bonheur et la bonne vie, et qui repousse de lui l'opposé de ses sens. Yani, il repousse de lui les douleurs, les peines, la mauvaise vie, les problèmes. Tous, ils s'accordent sur ce point. Yani, tous les gens cherchent le bonheur, kuffar comme muslimin, mais pas tous trouvent la voie du bonheur. وَهَذَا مَطْلُوبٌ صَحِيحٌ يَتَضَمَّنُ سِتَّةَ أُمُورٍ. Et donc ça, c'est une demande légitime et juste, qui comporte six points. Et le fait de chercher que ta quête soit le bonheur, ça c'est une demande, est une quête légitime. Et cette quête, il dit, elle comporte six points. Le premier: ma'rifatu shay'in nafi'in lil'abd al-mula'im lahu alladhi bihusuli ladhdatihi wa farahihi bihusulihi ladhdatuhu wa farahuhu wa sururuhu wa tibu 'aishihi. Donc le premier point que ça comporte, Donc on est d'accord que tous on veut le bonheur, on veut la joie, on veut le bien, on veut la bonne vie, on veut la sérénité, l'apaisement, la tranquillité. Tous on cherche ça. Même les animaux, c'est ce qu'ils cherchent. Et également, on cherche à s'écarter et s'éloigner de l'opposé de ses sens. Lakin, cette demande, elle comporte 6 points. Le premier, ma'rifatu shay'in nafi'. Donc premièrement, tu dois savoir qu'est-ce qui est profitable pour le serviteur. Et qu'est-ce qui convient pour le serviteur. Et quelle est la chose qu'en l'obtenant, t'arrives au bonheur et à la joie et à la gaieté et à la bonne vie. Il y en a qui pensent c'est la drogue, ou l'alcool, ou les femmes, ou les soirées, ou les restaurants, les voyages. Chacun, il a ses critères pour les ingrédients du bonheur. Ou là, la richesse et l'argent, la quête derrière l'argent et la richesse. Ça, c'est le premier point. Tu dois tout d'abord savoir ce qui t'est profitable et ce qui te permet d'arriver à ce bonheur. Donc ça, ça demande une science de la chose en soi-même. Le deuxième point, ma'rifatu at-tariq al-mawsilati ila dhalik. C'est pas parce que tu as su ce qui sera une cause de bonheur pour toi que tu l'auras. Il faut que tu saches la voie qui mène vers cette chose qui te permet d'y accéder. Le chemin de l'obtention de ces éléments qui vont permettre ton bonheur et ta joie et ta bonne vie. Troisième chose, سلوك تلك الطريق. C'est pas non plus parce que tu sais ce qui est indispensable à ton bonheur et tu sais comment y parvenir que tu vas emprunter le chemin qui mène vers cette chose-là. Il faut y avoir une volonté d'emprunter cette voie. Ça, c'est le troisième. Et le quatrième, et cinquième et sixième, c'est l'inverse. C'est-à-dire le quatrième, tu dois savoir aussi les choses qui te sont néfastes et qui seront source de douleur et de peine et d'affliction et de tristesse pour toi. Et de savoir les chemins qui mènent vers ces choses-là, dangereuses pour ton bonheur et pour ton salut et ta sauvegarde. Quels sont les chemins qui mènent ? Là, des fois, tu peux emprunter un chemin en pensant que c'est un chemin du bien, alors que c'est un chemin qui te mène vers ta perdition. Donc tu dois connaître les chemins du mal également. Et sixièmement, tu dois t'écarter de ces voies et de ces chemins. Combien de personnes que vous rencontrez qui vous disent « Je sais que ça, c'est pas bien, hein ?» Lakin, malgré ça, il le fait. Ensuite, il a dit « Fahadhi sittatu umurin la tatimmu ladhatu al-abdi wa sururuhu wa farahuhu wa salahu halihi illa bistikmaliha. » Donc, voilà 6 points que le bonheur du serviteur et son salut et sa joie et sa réforme ne peut être complète qu'en les regroupant, qu'en ayant les 6 points. Il faut qu'il sache le bien, les chemins du bien et les emprunter. Le mal, les chemins du mal et s'en écarter. Avec les 6 points, il arrivera à son bonheur, à sa joie et à sa réforme. وَمَا نَقَصَ مِنْهَا عَادَ بِسُوءِ حَالِهِ وَتَنْكِيدِ حَيَاتِهِ. Et tout manquement, au niveau de un de ces 6 points, aura comme conséquence un manque dans son bonheur, dans sa joie, et il viendra gâcher sa vie. proportionnellement à la gravité et à la taille de ce manquement. وكل عاقل يسعى في هذه الأمور لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع. Il a dit, toute personne de bon sens, ayant un bon sens, toute personne sensée sera forcément attachée à ces six points. Mais la plupart des gens se sont trompés au sujet de comment atteindre et arriver à ces choses bien aimées et profitables. Et là, il va citer les lacunes, les causes de ne pas arriver à ces choses-là. Il a dit « Imma fi adami tasawwurihi wa ma'rifati » ou parmi les causes, il y a le fait de ne pas savoir et de ne pas connaître ce que c'est ce bien. Il ne sait pas ce que c'est le bien. Et comme vous savez, la personne qui connaît le plus son bien, la personne qui connaît le plus son bien et ce qui lui est profitable dans le dunya et dans l'akhira, c'est la personne qui connaît le plus Allah. Plus tu connaîtras Allah, plus tu sauras ce qui t'est profitable dans le dunya et dans l'akhira. Même dans les affaires mondaines. Allah, il te guide. Allah, il t'oriente vers ce qui est meilleur pour toi, même dans le dunya. Et ça, c'est des choses que vous entendez des hommes de science. Il y a une confirmation de ces choses-là de la bouche des hommes de science. La deuxième lacune, وَإِمَّا فِي عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ الطَّرِيقِ وَإِمَّا فِي عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ الطَّرِيقَ الْمُوصِلَةَ إِلَيْهِ. Donc, ou bien il ne connaît pas ce qui est bénéfique et profitable pour lui, et il pense que ce qui est source de malheur sera une source de bien pour lui, ou il ne connaît pas le chemin qui mène vers ce bien. C'est pour ça un salaf, il a dit, subhanallah, une parole très très forte qui résume beaucoup de sens. Il a dit, « In kana ma yadurruka yasurruka, famata tuflih. إذا كان ما يضرك يسرك فمتى تفلح. يعني si ce qui t'est nuisible et néfaste te réjouit, quand est-ce que tu connaîtras la réussite? Si يعني faire zina, écouter la musique, يعني faire le haram d'une manière générale, c'est une cause de réjouissance pour toi, quand est-ce qu'une personne comme ça connaîtra la réussite? Donc il faut que tu saches tout d'abord ce qui est vraiment profitable pour toi. Et deuxièmement, que tu saches les voies qui mènent vers ce bien. Et ces deux points reviennent à une erreur liée à l'ignorance. Donc quel est le remède de ces deux problèmes? C'est l'ilm. Car ces deux problèmes sont liés à l'jahl. L'jahl, il pense que son bien se trouve dans ce qui est en réalité la cause de son mal. Ou là, il ne connaît pas les voies. Donc le remède de ces deux points, c'est la science. Ensuite, la personne peut avoir la science de ce qui est demandé, et de ce qui est profitable, et de ce qui est bénéfique, et connaître la voie qui mène vers ce qui est profitable et bénéfique. Mais dans son cœur, il y a autre désir et autre volonté. Son cœur penche vers autre chose, vers d'autres passions interdites. Donc il a un penchant dans le cœur vers ce qui est interdit, et non pas vers ce qui est bénéfique. Et ses passions, ses shahawat, et ses envies haram, interdites, ses envies interdites vont être un obstacle entre lui et de vouloir ce qui est bénéfique et profitable et d'emprunter ses voies. C'est pour ça à chaque fois qu'il se détermine à à emprunter la voie du bien, ces choses-là vont venir et vont le repousser. Les envies interdites. Et lui, il n'arrive pas, il n'a pas la force de foi, la force de volonté. Il n'a pas la force qui lui permet de s'écarter et de repousser ses envies interdites et d'aller dans ce qui est bénéfique et profitable. Il ne peut arriver à ça, à repousser ses envies interdites et à s'orienter vers ce qui est bénéfique qu'avec deux choses. Imma hubbun muta'alliq wa imma faraqun muz'ij. Il ne peut y arriver qu'avec deux éléments. Oula, taqdim, alayba illa bi ahadi amrin, afwan. Il ne peut y arriver qu'avec un de ces deux éléments. Avec un de ces deux éléments, et pas forcément avec l'ensemble des deux. Lakin, s'il y a les deux, il sera encore plus fort à repousser ce qui est néfaste et à s'adonner à ce qui est profitable. S'il y a l'ensemble des deux. Mais un des deux est suffisant pour s'écarter de shahawat et d'aller sur la voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Le premier, il a dit « hubbun muta'alliq » et il va expliquer à les termes. Il y a un amour fort, un grand amour, ou une peur, ou là une grande peur. On va l'exprimer comme ça, après le cheikh, l'imam Ibn Qayyim va citer les détails. Donc, il a besoin d'un amour profond ou d'une grande peur. C'est ça qui va l'empêcher de suivre les passions et les désirs haram. Il a dit ensuite, فَيَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ وَالْجَنَّةُ وَنَعِيمُهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الشَّهَوَاتِ. Donc, ou bien il a un amour, un grand amour. Et cet amour, c'est un amour pour Allah, et pour le messager, et pour l'au-delà, et pour le paradis, et ses délices, et ses bienfaits. Un amour pour Allah, et pour son messager, et pour l'au-delà, et pour le paradis, ainsi que tous ses délices, qui est plus grand que l'amour de ses passions et de ses envies interdites. Et l'amour d'Allah et de son messager, ça se travaille avec la science, avec l'ilm et avec la mise en pratique, l'adoration. Et quand l'amour d'Allah dans le cœur augmente, il brûle l'amour de tout ce que Allah déteste. Et ça, c'est parmi les degrés de tawhid. Tawhid, parmi ces degrés élevés, c'est d'arriver à être en parfait accord avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ses volontés. C'est-à-dire d'aimer ce que Allah aime et de détester ce que Allah déteste. Yani, le croyant, il peut arriver à un degré où il déteste le haram. Et il ne trouve pas de plaisir dans le haram. Il le déteste. Il le dégoûte. Qu'Allah nous l'accorde à tous. Et d'aimer ce que Allah aime.
فيكون الله ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما.
Il faut qu'il sache aussi que c'est pas possible d'avoir les deux. C'est pas possible d'avoir à la fois l'amour d'Allah et de son prophète عليه الصلاة والسلام et l'amour de ce que Allah déteste. Il peut pas garder les deux. Tu peux pas à la fois faire ce que Allah aime et faire ce que Allah déteste. Lakin, ça va le pousser à faire passer en premier l'amour le plus important et l'amour le plus élevé, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Et ça ne veut pas dire, cette parole, ça ne veut pas dire que le croyant qui aime Allah sincèrement ne peut pas avoir l'amour de ce que Allah déteste. Lakin, ça va diminuer sa foi. Les Khawarij disent, il ne peut pas l'avoir. C'est pas possible d'aimer Allah et d'aimer ce que Allah déteste. Lakin, ça c'est une faiblesse chez le croyant. Et d'une manière générale, le croyant, quand il commet un péché, c'est pas par amour du péché et en voulant la désobéissance. Le croyant, quand il tombe dans le péché, c'est par faiblesse, d'une manière générale. C'est pour ça, parmi les hommes qu'Allah déteste le plus, un vieux fornicateur et un pauvre orgueilleux. Hadou, parmi les gens qu'Allah déteste le plus, car ils n'ont aucune raison de tomber dans ces péchés. Et normalement, avec la pauvreté, tu es modeste. Et qu'est-ce que tu... À la limite, si c'est un riche, il roule sur l'or, ouais, on peut comprendre. On ne peut pas autoriser ni légitimer. Lakin, ça se comprend. Il y a des choses qui le poussent vers de l'orgueil et se croire supérieur aux gens. Lakin, toi, tu es pauvre, tu n'as rien. Lâche, tu as ça. Hada, ça peut indiquer l'amour du péché. Il a ça par amour du péché et pas par faiblesse. De la même manière que le vieux qui arrive à un âge très avancé, yani il n'a plus d'envie, yani il n'a plus les envies des femmes, lakin il fait zina. Ça indique un amour du péché et non pas une faiblesse, comme ce qu'on peut trouver chez un jeune. Donc ça explique, lakin ça ne légitime pas. Donc ça c'est le premier point, c'est d'avoir un amour fort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour, ça se travaille. Et plus l'amour d'Allah augmente dans ton cœur, plus tu vas trouver de bonheur et de plaisir dans son adoration. Lakin, on sait tous que ça demande des années de travail. L'imam Sufyan al-Thawri a dit qu'il a fait des efforts pendant un certain nombre d'années, 10 ans, là, quelque chose comme ça, pour trouver le khushu' dans la salat. Et trouver le plaisir dans la salat. Yani, c'est des choses qui demandent des efforts constants et permanents, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette aux serviteurs d'arriver à ne plus sentir la fatigue, par exemple, dans une adoration qui dure longtemps. Hachi, c'est à quoi est arrivé le prophète, les compagnons? Qu'est-ce qui explique un homme? Il se lève, il fait salat durant des heures et des heures jusqu'à ce que ses pieds se fissurent et saignent. Ouais, il ne sent plus la fatigue d'abord. Moi, j'ai de la fatigue. J'ai de rire, le plaisir. Il a tellement de plaisir dans cette chose-là. Et ces phénomènes, on les connaît dans d'autres choses mondaines. Les gens, quand ils aiment une chose, toi, tu vois, il se fait mal, là, qu'il, lui, il ne sent pas plus la douleur. La sensation du plaisir domine la sensation de la douleur. Il rapporte beaucoup d'histoires à ce sujet. Lakin, effectivement, quand le cœur est rempli d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où on arrive à savourer les adorations et à tirer un plus grand profit de tout ce que nous faisons, des adorations qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un long chemin de travail et jusqu'à arriver à ces choses-là. Comme dit l'imam Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin, parmi les obstacles, c'est le nafs. Parmi les plus grands obstacles, c'est notre nafs. Et ça, on le constate dans nos différents, avec nos frères, dans nos problèmes, avec les gens. D'une manière générale, le nafs, elle est présente d'une manière forte. Et l'imam Ibn al-Qayyim dit que ton acheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala ne commence que quand tu arrives à mettre ton nafs en dessous de tes pieds. Il donne une belle métaphore, bhal une montagne que tu escalades, jusqu'à arriver au sommet de la montagne. Et quand tu arrives au sommet de cette montagne, c'est là où tu vas commencer ton acheminement vers Allah. c'est là où tu vas commencer à savourer les adorations, ces choses-là. Yani, ça arrive une fois que tu auras écrasé complètement ton nafs. Donc vous voyez qu'on est très très loin. Là, alhamdoulillah, ce qui compte, c'est d'être sur la bonne voie. C'est d'être dans ces efforts. Ces efforts en multipliant les adorations. Le Coran, les adorations surrogatoires. Bien évidemment, on ne parle pas des adorations obligatoires. Mais de multiplier aussi la lecture du Coran avec méditation, avec compréhension, la mémorisation du Coran et de l'hadith, la demande de la science, l'apprentissage de la religion et la mise en pratique. C'est ça la voie qui ouvre ses portes. Ses portes du paradis sur terre, avant le paradis de l'au-delà. Ça, c'est le paradis sur terre. Et le deuxième point, après cet amour profond, également une forte peur des conséquences néfastes du suivi de ces envies. Yani aussi de te rappeler les conséquences néfastes de suivre les envies, les passions, et de suivre Shahawat. Et tout ce que ça a comme mauvaises conséquences parmi les douleurs et les peines et les afflictions, et ainsi de suite. Et que ces peines et ces douleurs vont durer beaucoup plus longtemps que les plaisirs que ces péchés ont procurés. Le plaisir que les gens peuvent trouver dans un péché, il ne dure que pendant un petit laps de temps. Et après, il l'oublie, il disparaît. Est-ce que les gens se rappellent des plaisirs qu'ils ont trouvés à manger des plats excellents et exquis, des choses haram? Ils ne se rappellent plus. Là, qu'est-ce qui va rester? Mais par contre, cette fois, pendant une durée beaucoup plus grande, c'est yani, les douleurs de ce péché et les conséquences de ce péché et le malheur du péché. Choum al-ma'asiyya. فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره. Et donc quand ces deux sciences يعني, prennent une place importante dans son cœur, dans le cœur du serviteur, c'est-à-dire l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager et de l'au-delà et du paradis, il y a rien, un plaisir qui dure quelques instants te fait perdre un bonheur éternel, est-ce qu'il y a un homme sensé qui agit de cette manière? Ça, c'est la première science. C'est la science qui comporte cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, et l'amour de l'au-delà et du paradis. Et la deuxième science, c'est la science qui va comporter la peur de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment et de l'enfer et des conséquences néfastes des péchés. Quand ces deux sciences prennent une place importante dans le cœur du serviteur, ça va lui permettre et ça va être la cause de délaisser ses envies interdites et de suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Car, et là il dit une belle parole, il dit « فَإِنَّ خَاصِيَةَ الْعَقْلِ » إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. Il dit car la caractéristique principale de la raison, et ce qu'il veut dire par la raison, c'est le bon raisonnement, pas n'importe quelle raison. Yani la caractéristique principale du bon raisonnement, c'est de faire passer et de faire prévaloir la chose la plus aimée sur celle qui est inférieure dans l'amour. Si tu as le choix entre deux choses, une que tu aimes beaucoup plus que l'autre, bien évidemment, tu vas faire passer. Si tu peux avoir les deux, na'am. Lakin, dans le cas où ce n'est pas possible d'avoir les deux, alors forcément, la personne qui est censée et qui a un bon raisonnement, elle va faire passer la chose la plus aimée. Et également, quand tu es face à deux choses détestables, quand tu es face à deux choses détestables, et tu ne peux pas échapper aux deux à la fois. Bien évidemment, si tu peux échapper aux deux, tu vas les délaisser toutes les deux. Mais dans le cas où tu ne peux pas échapper aux deux à la fois, qu'est-ce que tu vas faire passer en premier? Celle qui est la moins détestable. Si t'es devant une personne qui met en exécution ce qu'elle dit, et tu le sais, il te dit, tu as le choix, je te coupe un doigt ou deux bras. Tu dis, vas-y, coupe un doigt. Lakin, si tu peux ne pas perdre ni un doigt, ni un bras, ni... ça passe en. Lakin, dans le cas où tu ne peux pas échapper aux deux, tu vas faire passer la chose la moins détestable. Ou là, on te dit, pour donner un exemple pour le premier cas aussi, on te dit, tu as le choix entre prendre un carton dans lequel il y a 100 000 euros ou un carton dans lequel il y a 1 000 euros. Choisis ce que tu veux. Si tu peux, tu lui dis, donne-moi les deux. Là, dans le cas où tu ne peux pas avoir les deux, forcément, tu prends 100 000 euros. Hachi, il dit, et ça, il n'y a personne qui va agir d'une manière différente de cette manière-là. Sauf un homme insensé, un homme fou qui n'a pas sa raison. Wally, il peut prendre un carton dans lequel il y a un jouet. En général, il y a les enfants. Et je pense avoir vu des expériences comme ça avec des enfants. Il leur donne 10 000, il lui donne un billet, deux billets de 1 000 euros, 500, 500. Et dans l'autre carton, il lui met des jouets ou là des bonbons. Il va prendre les bonbons. L'année, il ne connaît pas la valeur de 1 000 euros. Il peut acheter le magasin de bonbons avec. Là, qu'il a un enfant, il ne voit pas les choses de cette manière. Et de la même manière, celui qui fait passer les péchés dans lesquels il trouve un certain plaisir sur l'obéissance à Allah, il manque de bon sens et de bon raisonnement de cette manière. وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتبين بين العاقل وغيره. Et avec cette règle, cette base, tu pourras savoir le niveau d'intelligence et de bon sens des gens et distinguer la personne sensée de celle qui ne l'est pas. C'est avec ses choix. Si tu le vois, il délaisse le paradis pour quelques euros, tu sais que Hada, malheureusement, il ne fait pas partie de l'uqala. ويظهر تفاوتهم في العقول فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف تمتع به من زائره في المنام. Et donc c'est avec cette base ou là cette règle que tu arrives à faire la distinction entre les gens et savoir qui a le bon raisonnement parmi eux de celui qui ne l'a pas. Et donc, comment mettre au même piédestal une personne qui fait passer les plaisirs mondains et en plus, ce sont des plaisirs mêlés à des peines. Et ce n'est pas un plaisir pur, ce n'est pas un pur plaisir. Ils ne sont en réalité, il a dit comme Adrafu Ahlam, en réalité, ils ne sont que comme des rêves. Des rêves qui n'ont pas de sens. Adrafu Ahlamin.
يعني les rêves qui n'ont pas d'interprétation, qu'on n'interprète pas, là, ils n'ont pas de sens. Pas tout rêve que tu vois est un rêve qu'on peut interpréter. Il y a ru'ya et il y a l'ahlam. Adrath ahlam, en général, c'est le shaitan qui donne had les rêves. Comme les cauchemars, il voit qu'il tombe d'une tour, ou là, il court, quelqu'un le poursuit derrière lui, ou là, des choses comme ça. أو كطيف تمتع به زائره في المنام يعني quelque chose c'est des plaisirs passagers éphémères de très courte durée. Comment il fait passer ça sur une joie et un bonheur qui est le plus grand des bonheurs, un bonheur permanent qui ne s'arrête jamais et qui ne disparaît jamais. Et ainsi, il aura donné le bonheur éternel contre des plaisirs éphémères remplis de douleur et de peine. C'est des plaisirs éphémères et en plus, ils sont mêlés et mélangés à des douleurs et des peines. Et ça, c'est dans tous les plaisirs mondains. Dans tous les plaisirs mondains, c'est valable. Yani, ils disent que le plaisir que tu trouves à manger, un bon plat, tu ne le trouves que quand tu arrives à une grande faim, quand tu as très faim. C'est là où tu savoures au maximum un bon plat. Contrairement à quelqu'un qui vient de manger, tu lui donnes un bon plat, peut-être il va le manger juste parce que c'est un bon plat, il faut le manger. Contrairement à celui qui a très très faim. Et de la même manière, une belle boisson, tu la savoures encore plus quand tu es très assoiffé. Et le sommeil, quand est-ce que tu le savoures le plus? Quand tu es très fatigué. Quelqu'un, il dort et après il se réveille. Une heure plus tard, il s'endort et il se réveille avec un mal de crâne. Et ça, ce point, il est valable pour tous les plaisirs, subhanallah. Allah, subhanallah, il a fait que tous les plaisirs de cette dunya, ils sont entourés de douleurs ou là, de peines. Contrairement aux bienfaits de l'akhira, qui sont des purs bienfaits dans lesquels il n'y a pas de tristesse, ni de douleur, ni de peine. Et donc si l'homme sensé, l'homme doté de bons raisonnements, s'il compare les deux plaisirs, le plaisir éphémère et le plaisir éternel, et s'il compare les bienfaits des plaisirs de l'akhira et les méfaits des plaisirs qu'il trouve dans dunya, dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment, il a dit lastahya min nafsihi wa aqlihi, il aurait eu honte de lui, de sa personne et de sa raison, il aurait eu honte d'agir de cette manière. Comme les exemples qu'on vient de voir. Comment il a fait passer une chose néfaste et dangereuse et vilaine sur un pur bienfait éternel. Comment il fait les causes pour l'avoir? Comment il perd son temps à être préoccupé d'obtenir cette chose? Alors que dire de la faire passer sur ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nul homme n'a pu s'imaginer. Voilà la description de Jannah. Al-Jannah fiha ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Dans le paradis, il y a ce qu'on peut même pas s'imaginer. Ce qu'il y a dans le paradis, c'est des choses qu'on ne peut pas s'imaginer avec la raison qu'on a aujourd'hui. C'est impossible. Tout ce que nous avons dans les textes, c'est pour nous rapprocher ce qu'il y a dans le paradis. Mais en réalité, c'est des choses qu'on n'a jamais vues et qu'on n'a jamais entendues et que personne d'entre nous ne peut s'imaginer. Comment délaisser et perdre toutes ces choses-là contre des plaisirs éphémères remplis de mal et de tristesse. Et regarde le péché, et malgré le plaisir qu'il puisse procurer, pour ceux pour qui il procure un plaisir pendant l'accomplissement de l'acte, regarde après l'acte. Ça donne des regrets et des remords et un mal-être. Wal'iyadu billah. Lakin, ça c'est pour quelqu'un qui a encore un peu de vie dans son cœur. Amma quand le cœur il est mort, il ne sent plus les douleurs. Nasallallahu alayhi wa sallam al-afiyah. وَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِلَى مَوْتٍ. Yani, si tu mets un couteau dans un homme vivant, tu le plantes, ça lui fait des douleurs. Contrairement à quand il perd l'âme. Quand il meurt, il ne sent plus les douleurs. C'est la même chose pour le cœur. Plus il y a de vie dans le cœur, plus il va sentir les douleurs des péchés. Alors, le croyant qui aime Allah sincèrement et qui a un grand amour d'Allah peut tomber dans le péché. Lakin, quand il tombe dans le péché, peut-être que ce péché sera la cause de beaucoup d'adorations qu'il ne faisait pas avant. Tellement il va regretter, tellement il va s'en vouloir, tellement... Et ça lui donne des adorations au point que Shaitan il regrette de l'avoir fait tomber dans le péché. Nasallallah, en ij'alana min ibadihi al-mu'minin, min ibadihi al-salihin. Peut-être que nous allons... Inch'Allah ta'ala, nous arrêter sur ce point et nous continuerons dans notre prochaine rencontre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.